Au micro, Idriss Assoubidia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Bonjour. En Côte d'Ivoire, invoquant un cas de force majeure, le président Alassane Ouattara a annoncé hier qu'il allait briguer un troisième mandat à l'élection présidentielle d'octobre, ce dont l'opposition lui conteste le droit en vertu de la Constitution. Nous y reviendrons dans un instant avec nos correspondants Siri Kibaro et Aïcha Diarra. En Guinée, en revanche, c'est toujours le suspense. Le parti du président Alpha Condé lui a demandé jeudi de briguer un troisième mandat à la présidentielle d'octobre, et M. Condé a répondu « prendre acte », sans formellement s'engager. Nous y reviendrons également avec votre correspondant Zakaria Kamara. Centre du Mali, les forces de sécurité maliennes ont commis 94 exécutions extrajudiciaires entre le 1er avril et le 30 juin, a affirmé jeudi la mission de l'ONU au Mali. La MINUSMA accuse également l'armée burkinabé de 50 exécutions extrajudiciaires sur le territoire malien pendant la même période. En République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé ce jeudi le retrait des troupes zambiennes qui occupaient deux villages du sud-est du pays après une médiation de la SADC. Mi-mars, des combats avaient éclaté entre les armées congolaises et zambiennes, faisant un mort de chaque côté, lorsque des troupes zambiennes avaient occupé deux villages congolais, à Muliro, Kibambe, dans la province du Tanganyika. RDC toujours, la grève des sociétés pétrolières a été largement observée jeudi dans plusieurs villes du sud-est, provoquant la fermeture de stations de service du sud-est donc. Selon ces sociétés pétrolières, le prix de vente actuellement appliqué dans leur zone décapitalise leurs entreprises au point qu'elles ne sont plus en mesure de renouveler leurs stocks, et elle dénonce des disparités de traitement. Le cap du million de cas de coronavirus a été franchi jeudi en Afrique, continent qui reste cependant encore le moins touché dans le monde et où la répartition des cas est très inégale. Selon les chiffres compilés par l'AFP jeudi, un peu plus d'un million de cas ont été enregistrés sur l'ensemble du continent, avec au moins 21 724 décès, ce qui représente environ 5% des cas dans le monde. Selon l'AFP, plus de 19 millions de cas ont été officiellement comptabilisés dans 196 pays et territoires, dont plus de 11 millions de guéris. La pandémie a fait au moins 712 000 morts dans le monde depuis fin décembre. Les États-Unis restent le pays le plus endetté avec près de 160 000 morts, dont plus de 2 000 au cours des dernières 24 heures, un plus haut depuis 3 mois. Viennent ensuite le Brésil, le Mexique, le Royaume-Uni et l'Inde. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est insurgé ce jeudi contre ce qu'il a appelé le nationalisme vaccinal. Il devrait y avoir un consensus mondial pour faire de tout vaccin un bien public commun, a-t-il plaidé. Il ne s'agit pas de partager au nom du partage, mais parce que cela bénéficierait à tous, y compris aux pays riches, selon le directeur général de l'OMS. Au Liban, les forces de l'ordre ont utilisé jeudi soir des gaz lacrymogènes pour disperser des dizaines de manifestants très remontés après la gigantesque explosion dans le port de Beyrouth qui a fait mardi au moins 149 morts et 5000 blessés, des dizaines de disparus ainsi que des centaines de milliers de sans-abri. Cette explosion, causée par 2700 tonnes de nitrate d'ammonium, est devenue pour les protestataires le symbole de l'incompétence et de la corruption des autorités. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Assoubidia, restez à l'écoute. suite de nos informations, le président ivoirien Alassane Ouattara a mis fin au suspense en annonçant sa candidature à un troisième mandat lors de son message à la nation jeudi soir, à la veille de la célébration du 60e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. De Boaké, notre correspondant Siri Kibaro.
Son retrait de la vie politique n'aura pas lieu. Alassane Ouattara a officialisé sa candidature aux futures élections présidentielles. Le président ivoirien, dans son message à la nation, dit répondre favorablement aux nombreuses sollicitations de ses partisans. Depuis le décès d'Amadou Ban Koulibaly, candidat désigné du RHDP, les partisans du chef de l'État se sont tournés vers lui pour lui demander de reconsidérer sa décision.
Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat.
À trois mois de ces élections, cette annonce du président Ouattara va alimenter les débats politiques. Ses opposants et certains analystes lui nient tout droit à un troisième mandat. Selon Alassane Ouattara, cette candidature est légale et répond à un besoin de consolidation des acquis de ses deux précédents mandats.
Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position.
Cette annonce du président Alassane Ouattara est intervenue quelques heures après des manifestations de protestation dans la capitale abidjanaise contre le retrait de l'ex-président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Siri Kibaro, Boaké, VOA, Afrique.
En Mauritanie, une quarantaine de migrants se sont noyés et un seul a survécu lors d'un naufrage au large de Ouagadougou, a indiqué ce jeudi l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et une source sécuritaire mauritanienne. Les détails avec Nanit Talani.
Le naufrage a eu lieu dans les eaux internationales, bien loin des rivages de la Mauritanie. Il y a eu un seul survivant, originaire de Guinée, a indiqué sur Twitter Vincent Cochetel, envoyé spécial de l'ONU pour la Méditerranée centrale. Le rescapé qui se trouve à l'hôpital a affirmé que lui-même et ses amis venaient du Maroc et se rendaient aux îles Canaries, archipel espagnol au large du Maroc. Selon ses dires, leur bateau a eu une panne. Ils n'ont pas eu de secours et il y a eu un sauve-qui-peut. Les occupants du bateau, pris de peur, se sont jetés à la mer et sont tous morts selon le survivant. L'Organisation internationale pour les migrations, les autorités locales et leurs partenaires essaient de renforcer les efforts pour éviter de telles tragédies, mais les trafiquants continuent à mentir à leurs clients, a déploré M. Cochelet. Plus de 60 migrants africains sont déjà morts noyés au large de la Mauritanie en décembre 2019. La route de l'Afrique de l'Ouest, par mer ou par terre, figure parmi les voies privilégiées pour l'immigration clandestine vers l'Europe. Elle connaît un relatif regain depuis plus de 2 ans à cause des mesures prises et la maltraitance des migrants transitant par la Libye.
Le Sénat américain a adopté un projet de loi qui interdit le téléchargement et l'utilisation de TikTok, réseau social du groupe chinois ByteDance, sur tout appareil délivré par le gouvernement à ses employés et aux membres du Congrès. Nathalie Barge.
TikTok représente un risque de sécurité majeur et n'a pas sa place sur les appareils du gouvernement, a tweeté le service de presse du sénateur républicain Josh Hawley, co-auteur du texte. Après son passage au Sénat, contrôlé par les Républicains, ce texte devra être approuvé par la Chambre des représentants à majorité démocrate avant d'être promulgué par Donald Trump. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré mercredi que les États-Unis souhaitaient bannir des téléphones américains non seulement TikTok, mais aussi d'autres applications chinoises jugées à risque pour la sécurité nationale. Donald Trump a fait pression sur le groupe chinois ByteDance pour qu'il vende avant le 15 septembre TikTok à Microsoft ou une autre société américaine, sous peine de ne plus pouvoir opérer aux États-Unis.
La minute écho, John Lyndon.
La Côte d'Ivoire dispose désormais d'une plateforme de recherche de solutions concrètes pour le développement des petites et moyennes entreprises. Club Élite PME a été lancé par la Banque d'Abidjan. Il s'agit, selon son directeur général, d'un nouvel outil de suivi, de conseil, de structuration et de financement qui est proposé aux entreprises. L'opérateur de téléphonie mobile sud-africain MTN annonce qu'il va se retirer du Moyen-Orient à moyen terme, en commençant par la vente de sa participation de 75% dans MTN Syrie pour se consacrer sur l'Afrique où ses bénéfices progressent. Les actifs de MTN au Moyen-Orient ont contribué pour moins de 4% aux bénéfices du groupe. Aux États-Unis, les inscriptions du chômage sont reparties à la baisse après 2 semaines de hausse, selon les chiffres publiés jeudi par le département du travail. Entre le 26 juillet et le 1er août, 1,19 million de personnes se sont inscrites au chômage, en baisse par rapport aux 1,43 million de la semaine précédente. Le taux de chômage du mois de juillet sera annoncé ce vendredi, alors que le pays connaît depuis fin juin une flambée de nouveaux cas de COVID. Bruxelles abritera en décembre prochain une table ronde des investisseurs sous l'égide de la commission de la CEMAC. L'objectif sera de mobiliser 2400 milliards de francs CFA pour la réalisation de projets de développement dans la région CEMAC. 11 projets ont été retenus, notamment celui du corridor Brazzaville-Ouezo-Bangui-N'Djamena, devant relier le Congo, la Centrafrique et le Tchad.
Les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. On connaît les dates de démarrage de la saison 2020-2021 au Rwanda. Le comité exécutif de la Fédération rwandaise de football a annoncé que le championnat de première division débutera le 30 octobre, suivi de la deuxième division. Les éditions 2021 du Heroes Cup et du Peace Cup commenceront respectivement le 19 janvier et le 4 février. Pour finir la saison 2019-2020, les playoffs de la deuxième division seront disputés du 2 au 17 octobre avant l'entame de la nouvelle saison. Idem pour les championnats féminins qui iront à leur terme du 3 octobre au 20 décembre. La saison 2020-2021 du football féminin, première et deuxième division, commencera le 19 février pour prendre fin le 31 juillet 2021. En Europe, la Ligue des champions reprend ce soir en huitième de finale retour à Turin, en Italie donc. Les entraîneurs de la Juventus et de Lyon, Mauricio Sarri et Rudy Garcia, ne se sont pas mouillés et ont évoqué pour l'un un match difficile, pour l'autre un duel à 50-50. La vieille dame a perdu 1-0 à l'aller en France. Coup d'envoi 19h, temps universel. Au même moment, en Angleterre, Manchester City recevra le Real Madrid, toujours en huitième de finale retour. Les Madrilènes ont perdu 2-1 au Santiago Bernabéu au match aller. Samedi, à 19h, temps universel, le Bayern Munich reçoit Chelsea et le FC Barcelone fera face à Naples. Et puis, la Première Ligue a décidé qu'elle reviendrait la saison prochaine à la règle autorisant 3 remplacements par match au lieu de 5, comme cela a été mis en place à la reprise du championnat après la crise du Covid-19. Le nombre de remplaçants sur la feuille de match reviendra à 7 au lieu de 9, a ajouté la Première Ligue dans son communiqué. Pour la reprise des championnats qui souhaitaient terminer leur saison 2020-2021, après les 3 mois d'interruption due à la pandémie de Covid-19, l'International Board, IFAB, garant des lois du football, a temporairement modifié la loi 3 du jeu. La possibilité de prolonger cet amendement sur la saison prochaine a été laissée au championnat par la FIFA. La France a annoncé fin juillet que 5 changements seront possibles en Ligue 1 et Ligue 2 la saison prochaine. Athlétisme, l'Ukrainienne Natalia Krol, championne d'Europe 2016 et 2018 du 800 mètres, a été suspendue 20 mois à la suite d'un contrôle positif à la diurétique. Krol, 25 ans, a été contrôlée positive le 16 janvier et ses résultats depuis cette date sont annulés. Ses 2 titres européens conquis sur le double tour de piste en 2016 à Amsterdam et en 2018 à Berlin sous son nom de jeune fille, Prishepa, ne sont donc pas concernés par la sanction. L'unité d'intégrité de l'athlétisme en charge de l'antidopage a aussi suspendu la Turque Gulkan Minji pour 2 ans à compter du 3 février. L'athlète de 31 ans a été contrôlée positive aux stéroïdes aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 lors d'une réanalyse d'échantillons.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La Côte d'Ivoire fête aujourd'hui les 60 ans de son indépendance. Jeudi soir, le président ivoirien Alassane Ouattara, lors de son adresse à la nation, a indiqué son intention de briguer un troisième mandat en tant que candidat du RHDP, après le décès de son dauphin Amadougon Koulibaly. Aïcha Diarra a recueilli des réactions de citoyens ivoiriens dans ce Vox Pop.
Ce que moi je voulais, si vous pouvez laisser la place aux jeunes, c'était mieux. C'est ça.
C'est un sentiment de soulagement quand nous regardons donc le paysage politique. Les acteurs politiques que nous connaissons, que nous avons déjà vus à l'œuvre, ne nous rassurent pas. Et vu donc le décès du candidat Amadougon Koulibaly, ex-premier ministre, nous étions beaucoup inquiets quant à la stabilité du pays, quant à la poursuite du développement du pays. Et donc nous pensons que Ouattara a bien fait de répondre une fois de plus à l'appel du devoir en acceptant de se porter candidat pour les échéances de 2020.
En tout cas, à ce point, il veut que dans le pays, il faut qu'on respecte nos dits. Parce que quand ils ne respectent pas un dit, après, ça devient autre chose. Bel et bien, les voix sont... On a le goudron, on a tout. Mais on veut manger aussi. La jeunesse veut travailler.
Très sincèrement, si le président actuel sortant veut qu'il y ait de la paix dans ce pays, il va falloir laisser tomber le pouvoir.
Non, il n'y a pas de problème. En tout cas, il est là, ça arrange le pays. Il a fait beaucoup de choses. Quand il est arrivé, il a fait les routes. En tout cas, ça va. Il est candidat, c'est bon.
De ne pas se présenter, ça serait la honte. Moi, ça, c'est mon point de vue. Il sera déçu, sincèrement. Parce qu'il pense que peut-être la population est vraiment pour sa candidature. Mais il sait que peut-être que les gens l'ont blagué. Mais il sera déçu.
Bon, moi, ce que je vois dedans, j'ai écouté son message à la nation. Il a donné aussi les raisons qui fait qu'il voulait se présenter. Bon, je crois qu'en analyse de tout, ce que nous souhaitons, c'est la paix, pour que cette paix soit préservée. Et quand je regarde aujourd'hui, il est peut-être le garant même qui peut préserver cette paix. Donc, tout ce que nous pouvons nous souhaiter, c'est longue vie et bonne chance que le Tout-Puissant l'accompagne dans cette nouvelle aventure.
Bon, côté candidature, je pense qu'il est un peu fatigué, mais s'il dit qu'il peut, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, il y a l'âge aussi qui compte dedans. S'il est fatigué, qu'il se repose, il a fait beaucoup. Au-delà de ça, il n'y a pas de souci.
Au fait, on ne sait pas quoi dire. Voilà, au fait, nous sommes heureux, nous sommes heureux.
On est très très contents. Voilà, parce qu'on n'a pas le choix. Bon, d'après Adoumani, la candidature d'un parti n'est pas comme un match de football. On connaît les remplaçants avant le match. Mais ça, maintenant, on va choisir qui? C'est le meilleur candidat.
Un pays a besoin d'un leader. Et s'il y a quelqu'un qui peut faire plus que nous, on attend de lui, je pense que c'est Alassane Ouattara. Et vu ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire d'abord, c'est déjà une bonne chose. Et si se représente, pourquoi ne pas le voter? Parce qu'on ne peut pas laisser quelque chose qu'on a et puis prendre autre chose. Comme le président l'a dit, le vrai bonheur de la personne qui l'a perdu.
Pour l'amélioration du pays, on a besoin d'un bon président. Nous qui sommes les jeunes, les futurs cadres du pays, nous devons avoir une bonne personne pour nous accompagner dans les petites tâches à venir. Bon, c'est une bonne initiative. On souhaite que le Dieu Tout-Puissant lui donne cette victoire la nuit du 31 octobre.
On est tellement content que les mots nous échappent. Que Dieu fasse, il n'a qu'à avoir le pouvoir cette année-là encore.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h/24.
En Guinée, le président Alpha Condé continue d'entretenir le flou autour de sa candidature à la présidentielle du 18 octobre prochain. Les militants du RPG Arc-en-Ciel lui ont demandé au terme d'une convention nationale à Conakry de briguer un troisième mandat. En réponse, M. Condé a dit avoir pris acte. Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant en Guinée.
C'est la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel qui annonce le choix du parti.
Notre choix est connu, bien connu, entièrement connu, totalement connu. Nous, membres du RPG Arc-en-Ciel, réunis les 5 et 6 août à Conakry, en convention nationale avec le mandat de toutes les militantes, tous les militants, responsables et sympathisants à la base, affirmons ce qui suit. Camarades membres du RPG arc-en-ciel. Il est temps de décliner notre choix. Notre choix s'appelle Alpha Condé.
Pour Nantou Chérif, Alpha Condé doit continuer à s'aimer dans le cœur des Guinéens des valeurs qui sont des atouts et qui font de la Guinée un pays attractif sur le plan des investissements. Dans sa réponse, le président Condé s'est adressé aux délégations venues de tout le pays, mais en conjuguant les verbes au futur.
Notre bataille principale sera de lutter contre la corruption. Mais lutter contre la corruption, il ne s'agit pas seulement de changer un homme par tel. Il s'agit d'utiliser les nouvelles technologies modernes qui ne permettent plus à un cadre de rouler parce qu'il ne pourra pas. Il faut que nous ayons en premier point la lutte contre la corruption. Deuxièmement, la lutte pour l'émancipation des femmes et l'égalité.
Alpha Condé a ensuite défendu son bilan et demandé un débat avec ses opposants.
Pourquoi nous devons faire un débat bilan contre bilan? Qui est qui? Qui est qui? Il faut que la jeunesse sache celui qui parle, qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Quelle a été sa gestion? Parce que la Guinée est le seul pays qui a comme particularité des opposants qui sont des anciens premiers ministres. C'est-à-dire qu'ils ont gouverné. Donc, on doit savoir quel est le bilan. Je comprends les jeunes de Bambette et autres.
Sollicité pour être le candidat du RPG arc-en-ciel à l'élection présidentielle, le président guinéen a entretenu le flou.
Si nous sommes d'accord que les 6 prochaines années doivent être consacrées à l'émancipation des femmes, je prendrai acte. Si nous sommes d'accord que les prochaines 6 années là, permettre à la jeunesse guinéenne non seulement d'être maître de son destin, de maîtriser le savoir et d'être un exemple pour les pays africains, oui.
Le premier tour de l'élection présidentielle en Guinée est prévu le 18 octobre prochain. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
16 fonctionnaires du port de Beyrouth et des douanes ont été placés en détention au Liban dans le cadre de l'enquête sur l'explosion meurtrière dévastatrice mardi d'un entrepôt renfermant 2700 tonnes de nitrate d'ammonium. La déflagration a fait au moins 137 morts et 5000 blessés et des centaines de milliers de sans-abri. Nathalie Barge a joint jeudi soir à Beyrouth la journaliste Saniva Rose, correspondante du Figaro et du journal émirati The National, qui a passé sa journée sur le terrain où se sont tenues des manifestations au milieu des gens descendus avec leurs balais pour nettoyer la rue.
Quand on marche dans les rues de Beyrouth, dans les quartiers résidentiels qui sont les plus proches du port, c'est vraiment une scène de dévastation. Enfin, il y a du verre partout, il y a des bruits d'ambulance, il y a des bruits des gens qui réparent. C'est un bruit qui ne s'arrête pas, ce bruit de verre brisé, parce que toutes les façades se sont écroulées et les gens sont en train d'essayer de déblayer les appartements, les rues. Enfin, il y a des blocs de pierre qui sont détachés des immeubles, il y a des blocs de ciment qui ont détruit les voitures qui étaient garées, il y a des arbres qui sont déracinés. Il y a un bruit incessant de verre brisé pendant que les gens essayent de nettoyer les rues du verre, des façades, des bâtiments qui se sont effondrés. Dans les appartements proches du port, la scène est terrible. J'ai pu visiter un petit appartement. Enfin, les lits ont été soulevés, je pense, et repoussés vers l'arrière de l'appartement par la force de l'explosion. On voit encore du sang sur les murs, il y a énormément de blessés, des milliers de blessés, je pense. J'ai parlé à quelqu'un qui vivait dans un de ses appartements, qui m'a dit qu'il pensait qu'il était mort. Il vivait depuis 1970, avant la guerre civile, il m'a dit que c'est la pire journée de ma vie. On a vu un grand effort de solidarité aujourd'hui dans ces rues. Tout le monde s'est mobilisé en dehors de Beyrouth pour venir aider. J'ai rencontré des étudiants, des jeunes. Tout le monde est venu avec sa pelle et son balai pour essayer de nettoyer.
Alors, qu'en est-il de la contestation? Le mouvement s'était un peu essoufflé à cause du coronavirus. Est-ce que cela veut dire maintenant que c'est reparti et de manière peut-être plus violente cette fois-ci?
Ce qui est sûr, c'est que les gens sont en colère. J'ai entendu des mots de colère dans les quartiers les plus touchés. Beaucoup de gens, en tout cas, appellent à la démission du gouvernement. Il y a eu des petites manifestations dans les quartiers les plus touchés, en fait, les Maïs et Marbret. Des gens qui criaient révolution, révolution, que ce sont des criminels, que le président est un terroriste, enfin, des mots très durs. Et il y a eu des affrontements hier dans le centre-ville à Beyrouth entre des gens qui soutiennent le premier ministre Abdali qui s'est venu visiter et des manifestants qui lui disaient ne rêve pas de revenir au pouvoir et qui scandaient des slogans pro-révolution. Donc oui, on peut craindre que ça va continuer à grimper.
Alors la pression s'est accentuée depuis par la communauté internationale, notamment pour les réformes économiques. Est-ce que l'on peut espérer que ces réformes aient lieu dans un proche avenir?
Les Libanais ont perdu leur pouvoir d'achat d'une manière incroyable. Enfin, il y a une hyperinflation, une dévaluation de la monnaie locale d'environ 80%. Il y a du chômage de masse, des fermetures d'entreprises tous les jours. C'est malgré le fait que les Libanais ont vraiment besoin de cet argent, les politiciens libanais sont incapables de mettre en place des réformes parce que ça veut dire qu'ils perdraient leur pouvoir et leur mainmise sur le pays. Mais on peut peut-être espérer qu'aujourd'hui, avec le choc de l'explosion, que ça va s'accélérer. Le président français Emmanuel Macron, en visite au Liban, a dit que il considérait l'option de sanctions contre les hommes politiques s'ils ne mettaient pas en œuvre ces réformes. Et il a très clairement dit aussi que l'aide viendrait directement aux Libanais qui en ont besoin et pas via des organismes étatiques, ce qui montre vraiment le manque de confiance de la communauté internationale envers le gouvernement libanais.
Sonny Varose, correspondante du Figaro et du journal émirati The National, jointe à Beyrouth au Liban. À cause du coronavirus, beaucoup d'États américains ont élargi les options de vote pour la présidentielle de novembre. Le vote par correspondance remonte à la guerre civile, mais le président Donald Trump affirme que cela va entraîner la fraude ou des mois d'incertitude après le scrutin. Patsy Villacoussoara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, explique comment une option de vote de routine devient un débat politique central. Le récit est de Lionel Gahima.
Certains New-Yorkais ont bravé la menace du coronavirus pour voter en personne à la primaire démocrate du mois de juin. Mais beaucoup ont voté par correspondance, inondant un système électoral mal préparé. 6 semaines plus tard, les résultats dans certaines circonscriptions n'ont toujours pas été annoncés. Le président Donald Trump a averti à plusieurs reprises que si les États-Unis comptent le vote par correspondance pour le scrutin présidentiel de novembre, le même type de retard pourrait se produire.
Vous ne connaîtrez pas le résultat des élections avant des semaines, des mois, voire des années. Peut-être même que vous ne saurez jamais le résultat des élections. Et ce qui m'inquiète, ce sera faussé, ce sera truqué.
Les responsables électoraux répondent que la fraude électorale aux États-Unis est extrêmement rare, même pour le vote par correspondance. La plupart des États autorisent le vote par courrier, mais cette année, à cause de la pandémie, il y a risque d'y avoir un plus grand nombre de bulletins envoyés par la poste, ce qui nécessiterait plus de temps pour les compter. S'il y a retard, ce ne sera pas la première fois aux États-Unis. En l'an 2000, le litige électoral entre Al Gore et George W. Bush avait duré plus d'un mois en raison des récompenses en Floride. Le scrutin de novembre prochain pourrait être encore plus controversé. Matthew Well, du Centre de politique bipartisane.
Nous sommes actuellement dans un environnement hyper polarisé et donc toute possibilité qu'un candidat puisse prétendre qu'il a une sorte de chicanerie dans les coulisses sera un problème. Le gros problème cette fois, c'est que ce ne sera pas seulement un État comme la Floride. Je pense qu'il y a 3 ou 4, peut-être 5 États où cela pourrait prendre une semaine de plus.
Alors que Trump est revenu sur sa suggestion de reporter les élections, il continue à soulever des doutes et des soupçons sur le vote par correspondance. Élargir la participation des électeurs dans certains États aiderait Biden. Dans d'autres, comme la Floride, On s'attend à ce que ça soit au profit de Trump. Mais quel que soit le gagnant, d'après les analystes, le principal défi sera d'assurer que les deux parties acceptent le résultat comme crédible.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Edressa Seydoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.